commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Un livre ? Oui, mais quel livre ? Eh bien, l'Oiseau des Lires est là pour vous aider à choisir dans la profusion de tout ce qui nous paraît en littérature jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie depuis son premier livre, Timothée de Fombelle. Et actuellement, on parle beaucoup de lui, ce qui m'ennuie un peu parce que j'avais lu avant le livre de Perles qui vient de recevoir le prix à Montreuil, la pépite du roman ado. Mais j'aime tellement que bien que l'on en parle partout, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc c'est un livre très difficile à vous présenter, parce que c'est un livre qui nous emporte dans des mondes où le temps n'existe plus, mais où les personnages de contes semblent encore exister. Une quête onirique superbement écrite, où l'auteur nous balade d'un monde à l'autre. D'abord, le monde des fées. Elle courait sur le sable mouillé. Ses pieds ne s'enfonçaient pas, mais élargissait autour d'elle, à chaque bond, un cercle d'eau et de petits crabes. Elle était au bord de l'épuisement. Elle ne savait pas l'heure qu'il était. Elle savait juste qu'à minuit, tout serait fini. Il serait mort. La veille encore, pour arriver plus vite, elle aurait glissé sur l'écume, sans effort, ou volé au-dessus des forêts. La veille, elle était une fée. Mais à cause de cela, la veille, elle n'aurait pu partager le destin de celui qu'elle aimait, vivre ou mourir avec lui. Elle s'était donc dépouillée de toutes les magies. Un renoncement si rare, même dans les contes les plus anciens, l'abdication des fées. Au loin, la lumière du bateau-feu avait perdu son éclat. Elle rougeoyait au bout d'une jetée de pierres noires qui la reliait à la terre. Dans ce navire tapissé de cuivre, on brûlait des arbres entiers pour attirer les bateaux des autres royaumes et les briser contre les rochers. C'est là qu'il avait été amené pour son supplice. La distance paraissait infinie, de cette étendue de sable jusqu'à l'œil rouge du bateau-feu. Elle courait maintenant le long de l'eau, haletante, prise dans un couloir entre l'inclinaison de la plage et le vent chaud venu de la mer. Elle découvrait la souffrance de la chair, les pieds blessés, le souffle court, l'impuissance du corps, la condition humaine qu'elle avait tant désirée. Elle avait mal, mais ne regrettait rien. Elle voulait être comme lui. Avec lui. Était-il déjà minuit ? Comment savoir ? Elle levait les yeux, cherchait à connaître l'heure dans le ciel, ayant déjà vu disparaître en elle la légendaire ponctualité des fées. Quand elle arriva au premier rocher, la lune plongea dans la mer, ne laissant que des traînées phosphorescentes sur sa chemise volée. Là-bas, au bout de la jetée, la lumière du feu lui semblait plus forte. Le bateau n'était plus très loin. Les pierres devenaient rondes et chaudes sous ses pieds. Elle sautait de rocher en rocher, petite voile blanche bondissant sur les boulis de cailloux noirs, attirée par l'éclat du bateau-feu. Pour tant de voiliers passés au large avant elle, cette lumière avait été un espoir. Elle aussi espérait y trouver son trésor, son abri, sa vie. Mais comme tous ses navires, elle y trouva le naufrage. Elle tomba sans un cri sur le corps abandonné. Il ne respirait plus. Ses yeux étaient grands ouverts. Il avait 15 ou 16 ans comme elle. Il était posé seul sur le pont du bateau. Mon amour, elle gémissait à chaque expiration, cherchant une lueur dans ses yeux. Elle se laissait peser sur ce corps. Elle serrait entre ses mains le visage du garçon, son cœur contre le sien, palpitant pour deux, écorché pour deux. Le bateau craquait à chaque vague, mais ne bougeait pas. Mon amour. Elle disait d'autres mots dans le cou, des reproches, des prières, des regrets éternels. Elle s'accrochait à ses épaules, se frottait à ses cheveux. Et ce jeune garçon, dont elle est amoureuse, cette fée, c'est Ilian. Ilian qui n'est pas mort, mais qui va se retrouver dans un autre monde, en 1936, à la porte d'une boutique de fabricants de guimauves. Et il est trempé, il est sous la pluie et le couple va le le recueillir, le protéger. Il va devenir leur commis, il va remplacer leur fils disparu et il ira jusqu'à prendre leur nom, le nom de ce fils disparu, pour s'engager dans la guerre. Dans la guerre dont il va revenir un jour. Un jour, ses parents adoptifs auront disparu, emportés dans une rafle. Et lui, Joe Perle, puisque c'est le nom Perle de ses parents adoptifs, se retrouve résistant. Joe Perle fut reçu comme un frère d'armes par la dizaine d'hommes qui vivaient autour des bergeries disséminées sur ces hauts plateaux de Provence. Leur chef se faisait appeler Capitaine Alexandre. Il était grand et large. Il travaillait à une table dans un recoin. À côté de lui, une fenêtre ouvrait sur une fontaine. On lui présenta Joshua. Sur le mur de chaux, Alexandre avait épinglé la photo d'un petit tableau très ancien représentant une femme éclairant un voyageur avec une bougie. « Comment t'appelles-tu ? » « Perle. » Joshua regardait le tableau lumineux, comme une flamme. Le capitaine Alexandre gardait son crayon suspendu au-dessus d'un cahier vert. « Il faut que tu te trouves un nom de combat. Personne ici ne garde son nom d'avant. D'où viens-tu ? » « De très loin. » Alexandre souriait. Il écrivit quelques mots de son écriture penchée. Mais cela ne concernait pas Joshua. Debout, à trois pas de lui, il ne put lire que deux mots qui surnageaient. « Chagrin et cristal. »« Alors, comment t'appelles-tu ? » ?»« Ilian. Tu as une fiancée ?» Ilian ne répondit pas. Ses yeux s'étaient allumés. Son nom, Olia. Il n'avait pas prononcé ce prénom depuis si longtemps. Le patron le regardait. Ilian le rassura. « Elle ne dérangera pas mon travail. Tu ne dois pas la voir ni lui parler. Nous sommes tous des soldats et des moines jusqu'à la fin des combats. Promis, je ne la verrai pas. » Et les combats durèrent 3 ans. Ilian se retrouva au cœur de cette armée invisible qui tissait sa toile des montagnes jusqu'à la mer. Il se cachait, surveillait les traites, faisait sauter les voitures ennemies, allumait des feux la nuit pour permettre les parachutages d'armes. Il effaçait ses traces, changeait d'abri chaque soir. Il était une cigale, le jour, un grillon la nuit. L'hiver, il redevenait le lièvre blanc d'autrefois qui disparaissait dans la neige. Il était souvent seul, prenait ses ordres dans des messages qu'on glissait dans sa main au coin d'un bois. Il voyait peu ses compagnons et presque jamais Alexandre. Il se souvenait pourtant d'un tête-à-tête avec lui. Une nuit, ils étaient restés tous les deux des heures à guetter le ronflement d'un avion qui ne vint pas. Ils attendaient des cylindres pleins d'armes qui devaient être lâchés dans un champ de lavande. Joshua était assis sur ses talons, parfaitement immobile, même pas un battement de paupières. Il entendait la respiration du patron qui avait posé un colt devant lui. Il laissait s'installer de longs silences. Quand Alexandre parlait enfin, Perle avait l'impression que son chef avait passé tout son temps à lire dans ses pensées. Chaque mot creusait une galerie en lui et y apportait de la lumière. « Redis-moi son nom. »« Quel nom ?»« La fiancée. » »« Silence. » »« Olia, est-ce que tu penses à ce qu'elle fait en ce moment ?»« Non. » »« Pourquoi ?» Ilian ne répondit pas. « Tu devrais l'imaginer, » dit Alexandre. « Je ne veux pas. Tout commence par là. La vie vient juste derrière. Elle suit comme un petit chien derrière l'imaginaire. » Autour d'eux, la nuit se taisait toujours. « Quand le monde comprendra cela, » dit-il, « quand le monde y croira vraiment. » Dans le noir, il fit un grand geste qu'on devinait au froissement de sa manche, un geste qui parlait de la guerre. Il ajouta, « On arrêtera tout, et toi, tu retrouveras Olia. » Entendit-il bouillonner les secrets de Joshua Perle. Mais personne n'est vraiment prêt à le croire, continua Alexandre. Il leur faudra des preuves. Des preuves, tu entends. Joshua se perdait dans ses paroles qui le laissaient moins seul. Il leur faudra des preuves. L'avion ne vint pas. Aucune arme ne se posa sur les longues rangées de lavande. Quand le jour se leva, ils se séparèrent. Et ces mots, il leur faudra des preuves, c'est important dans la vie de Joshua parce que c'est ce qu'il va faire tout au long de sa vie ensuite, quand il rentrera, quand la guerre se terminera. Il cherchera des preuves de la vie des faits. Et il aura une maison où s'entasseront des valises avec plein, plein de preuves pour montrer que les faits existent. Un livre où tout est tissé, tout est embriqué. Si vous cherchez une lecture linéaire, ne vous lancez pas dans ce livre. Mais si vous aimez être emporté, perdu, happé par un récit, plongez dans le livre de perles. Et cet Alexandre que vous avez découvert là, c'est un petit peu René Char. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué Timothée de Fombelle. Donc, plongez dans le livre de perles, un livre extraordinaire. Et Timothée de Fombelle, je l'avais découvert avec Toby Lawlness, un livre qui a été, comme Van Gogh, dont je vais vous parler juste après, dans Les Dévoreurs de livres. Donc, Toby Lawlness, c'est un petit personnage minuscule qui vit dans un arbre. Et toute cette société vit dans un arbre et pense que cet arbre est le centre du monde. Toby est le fils d'un chercheur qui a découvert que l'arbre vivait grâce à la sève, à sa sève. Et il essaie de convaincre tous ces habitants minuscules que cet arbre, on ne doit pas le maltraiter, on doit le protéger, qu'il n'est pas le centre de la terre. Et ce qu'il dit fait qu'il sera enfermé, emprisonné avec sa femme. Toby, lui, va fuir, aller dans les racines de l'arbre où vit le petit peuple, le peuple des exclus. Et on est emporté dans ce récit. C'est une dictature qui s'installe en haut de l'arbre, les riches, ceux qui dominent, ceux qui creusent, ceux qui amènent la mort de l'arbre, et il y a ceux qui luttent. Et Toby qui essaie, lui, de libérer ses parents. C'est un livre extraordinaire pour plus jeunes, parce que le livre de perles, c'est clair, c'est un livre pour les jeunes adultes. Toby, on peut le lire plus tôt et découvrir déjà l'univers de Timothée de Fombelle. Et ensuite, il y eut, après les deux tomes de Toby Lawlness, Van Gogh. Van Gogh, qui lui aussi a été dans le prix des Dévoreurs de livres. Un livre pour les plus grands qui se rapproche plus dans le niveau de lecture du livre de perles. Van Gogh, c'est un jeune homme qui va être ordonné prêtre. Il est sur le parvis de Notre-Dame et à ce moment-là, un meurtre est commis. Et Van Gogh va être accusé de ce meurtre. Il va devoir fuir. Et le roman va nous emporter à la suite de Van Gogh. Van Gogh qui va fuir, qui va découvrir des mondes extraordinaires, qui va d'abord fuir à bord du Zeppelin. Le Zeppelin, comment dire, c'est un avion qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. À bord de cet avion, il y avait Hugo Eckener, qui était un résistant contre Hitler, et qui va emporter souvent des gens à bord de son Zeppelin. Donc, Van Gogh va fuir, va découvrir plusieurs pays, va nous emporter dans des aventures extraordinaires où nous survolons l'histoire. C'est vrai qu'il y a le Zeppelin, c'est vrai qu'on va rencontrer Staline dans son intimité, que l'on va vivre des aventures extraordinaires tout en étant sur le fil de l'histoire. Il y a aussi une jolie histoire d'amour avec Ethel. Donc, on est vraiment, à travers ces deux volumes de Van Gogh, emporté dans un monde extraordinaire, une aventure que l'on ne peut pas lâcher. On commence le livre et on le termine parce qu'on ne peut pas le poser. À lire, à relire. Voilà. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achète en librairie. En librairie, je dis bien, parce que le livre de perles, maintenant, on en parle beaucoup. Timothée de Fombelle a été découvert par les libraires. Achetez ses livres chez les libraires et non sur Internet.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.